RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
Radio Rythme Bleu, il est 17h45, Info Soir, c'est avec vous Isabelle Pelletier.
Le procureur de la République, Yves Dupin, indique que 9 individus dangereux sont toujours recherchés à Saint-Louis et souhaite que le travail d'enquête et d'interpellation se poursuive au plus vite. Le député Nicolas Metzdorf apporte son soutien à Bruno Retailleau. Le ministre de l'Intérieur va porter plainte contre le député de la France Insoumise, Raphaël Arnaud, qui a évoqué sur X un assassinat de Kanak par les forces de l'ordre. Le conseil Natné Kanaky organisait un rendez-vous mardi 24 septembre dans le district de La Roche-à-Marée. L'objectif, une plus grande autonomie des chefferies. Retour à la normale pour la TIR, les centres de l'association pour le traitement de l'insuffisance rénale sont ouverts et fonctionnent normalement à l'exception de celui de Thiou. Un bulbule, espèce envahissante et nuisible pour la biodiversité, observée à la fois une zone où il n'est normalement pas présent, l'agence néo-calédonienne de la biodiversité appelle les résidents à la vigilance. Et puis le sport, un Calédonien sélectionné aux mondiaux Master de Force Athlétique 2024, Axel Raymond sera avec l'équipe de France en Afrique du Sud. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Le couvre-feu assoupli mais prolongé jusqu'à dimanche soir, c'est l'une des décisions prises par le haut-commissaire au lendemain du 24 septembre. Et alors que le week-end prolongé et la fête de la citoyenneté se sont déroulés sans incident majeur, Mickaël Juniski.
Oui, grâce à l'action des forces de sécurité intérieure, le week-end prolongé et la fête de la citoyenneté se sont déroulés donc sans incident majeur, selon le haut-commissaire, qui veut poursuivre les efforts de sécurisation du territoire. En conséquence, le couvre-feu qui est en vigueur en Nouvelle-Calédonie depuis la mi-mai, est prolongé jusqu'au dimanche 29 septembre sur l'ensemble du territoire, mais dans une version allégée. Le couvre-feu s'applique désormais de 22h à 5h le matin. Concernant la vente d'alcool, on retrouve les mêmes restrictions qu'avant le pont du 24 septembre. La vente est de nouveau autorisée de 9h à 17h du lundi au jeudi, de 9h à midi le vendredi, dans la limite de 2 litres pour les boissons n'excédant pas 22 degrés et d'un litre pour les alcools forts. Le port, le transport et l'utilisation d'armes à feu et de munitions sont interdits jusqu'au dimanche 29 septembre 2024 inclus. Interdite aussi la vente au détail et le transport de carburant. Parmi les mesures de police administrative, les rassemblements, défilés, cortèges, à l'exception des marchés habituels et des manifestations sportives, restent interdits dans les communes du Grand Nouméa jusqu'au 30 septembre, c'est-à-dire jusqu'à lundi prochain.
Le procureur de la République, Yves Dupin, annonce qu'une quinzaine de personnes ont été interpellées au cours de ce week-end. Deux d'entre elles ont été déférées au parquet aujourd'hui, l'une pour un incendie volontaire à Païta, l'autre pour un caillassage sur les forces de l'ordre. Yves Dupin, qui était notre invité du matin, a aussi été longuement interrogé sur les affaires de Saint-Louis. De nombreuses procédures sont en cours, la première pour le meurtre du gendarme Molinari, mais aussi 45 enquêtes pour des tentatives de meurtre sur les gendarmes avec 330 tirs et une soixantaine de dossiers pour des carjackings. Ce sont donc des individus dangereux qu'il faut maintenant interpeller.
C'est la particularité de l'état des lieux judiciaire à Saint-Louis, c'est cette radicalisation extrême de certains jeunes et de certains délinquants donc, qui cherchent cette confrontation absolue avec les forces de l'ordre. Et donc une dangerosité particulière d'un groupe d'individus qui jusqu'au 10 juillet comptait 19 auteurs présumés. Le 10 juillet, c'est Rocco Amitan d'Ibanane qui décède lors d'un affrontement. Le 19 septembre, c'est deux autres jeunes qui décèdent lors d'un affrontement avec les forces de l'ordre. Et puis, nous avons interpellé sept personnes. Et au cours du week-end, d'ailleurs, deux auteurs présumés de tentatives de meurtre, de tir sur les gendarmes, ont été mis en examen et incarcérés. Donc, nous sommes à sept incarcérations au cours des 10 derniers jours. Il nous reste 9 interpellations.
Et ce matin, un centaure en mission de déblaiement a été visé par 3 tirs d'armes à feu à Saint-Louis. Le procureur rappelle qu'un dialogue s'est instauré avec les coutumiers pour inciter les auteurs présumés à se rendre et à se présenter à la gendarmerie pour être entendus. La Ligue des droits de l'homme déboutée de son recours contre les verrous de Saint-Louis, elle demandait au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du haut-commissaire de verrouiller la RP1 et d'édifier un mur le long de cette même route, Elisabeth Noir.
Une requête rejetée par le tribunal administratif qui répond point par point aux arguments invoqués par la Ligue des droits de l'homme. Il relève notamment que le dispositif critiqué ne traduit pas un renoncement des autorités à se déplacer au sein de la tribu de Saint-Louis pour rechercher et interpeller les auteurs des violences, comme vient de le démontrer l'opération de police menée dans la nuit du 18 au 19 septembre. Il souligne qu'il apparaît au contraire que les événements survenus depuis le 26 août ont révélé une recrudescence des actes de violence, comme en témoignent les deux personnes tuées lors de cette opération qui avaient ouvert le feu sur les forces de l'ordre qui ont riposté. Par conséquent, pour le juge administratif, les nécessités de l'ordre public et la protection des populations, y compris celles qui font l'objet de ces mesures contraignantes, imposent que le dispositif soit maintenu jusqu'à ce que l'ordre soit rétabli entièrement et que les habitants de la commune du Mont-d'Or-Sud, qui ont également droit à la sécurité, à se soigner et à travailler, puissent elles aussi circuler librement et reprendre une vie normale sans risque. Le tribunal relève également que chaque tentative par les forces de l'ordre de rétablir une circulation moins contrainte s'est soldée par des tirs d'armes à feu de gros calibre qui ne permettent pas une levée du dispositif dans l'immédiat. Pour le juge administratif, il y a donc urgence à maintenir le dispositif tant que les auteurs des exactions, dont l'assassinat d'un gendarme, n'auront pas été appréhendés, soit à la suite d'une opération de police, soit par reddition volontaire, comme cela a été le cas récemment, puisque 3 personnes se sont rendues aux forces de l'ordre avec le concours des autorités coutumières. Le juge des référés rejette donc la requête de la Ligue des droits de l'homme dans toutes ses conclusions.
Le tribunal administratif qui avait déjà débouté le 26 août dernier les chefferies qui avaient elles aussi formé un recours contre les verrous de Saint-Louis. Bruno Retailleau va porter plainte contre le député de la France insoumise Raphaël Arnaud qui a évoqué sur X un assassinat de Canac par les forces policières. Elisabeth.
Le nouveau ministre de l'Intérieur considère en effet ce tweet du député insoumis comme une incitation à la haine contre les forces de l'ordre en Nouvelle-Calédonie. Et dans cette démarche, il a reçu le soutien immédiat du député Nicolas Metzdorf, qui qualifie d'inacceptables les propos tenus par le député LFI.
Vous savez, les LFI, ils n'aiment pas la France et ils n'aiment pas l'ordre. Donc forcément, quand on essaye de faire respecter la démocratie en Nouvelle-Calédonie et l'ordre républicain, ils n'aiment pas. Et donc, ils utilisent des mots outranciers comme l'assassinat, alors qu'on sait que depuis 4 mois, les victimes des émeutes, ce sont l'ensemble des Calédoniens, des honnêtes gens, en particulier ceux du Mont-d'Or-Sud qui souffrent, et que donc LFI continue de vouloir culpabiliser les victimes et victimiser les coupables. Donc je trouve que Raphaël Arnaud doit aller en justice pour diffamation, et je soutiens tout à fait le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui souhaite engager cette procédure, parce que les forces de l'ordre en Nouvelle-Calédonie ne tuent personne, elles protègent les honnêtes citoyens et puis elles se protègent elles-mêmes.
Nicolas Metzdorf ajoute dans un communiqué que les députés de la France insoumise semblent oublier que depuis mai, ce ne sont pas moins de 700 gendarmes et policiers qui ont été blessés et qu'ils ont subi plus de 300 tirs à balles réelles. Le député de la première circonscription s'exprimait à l'issue de la réunion du groupe de contact de l'Assemblée nationale sur la Nouvelle-Calédonie, un groupe de contact qui a auditionné hier les 3 membres de la mission du dialogue, le préfet Rémi Basti, Frédéric Potier et Éric Thiers. Lors de leur audition, les députés leur ont demandé ce qui avait échoué dans cette mission du dialogue. Et selon Nicolas Metzdorf, les 3 hauts fonctionnaires ont été sans ambiguïté.
Ce qu'il y a de bien, c'est que les missionnaires ont été clairs dans la responsabilité de l'Union calédonienne sur le fait qu'il n'y ait pas eu de discussion. Ils l'ont dit très clairement, l'UC n'a pas tenu sa parole auprès du président de la République, pas tenu sa parole auprès des partenaires non indépendantistes. Et donc c'est finalement le manque de courage politique de l'Union calédonienne qui est aujourd'hui responsable de la situation. Donc c'est bien de l'avoir dit officiellement à l'ensemble des groupes politiques, de gauche comme de droite, et puis c'est bien de l'avoir dit officiellement dans un groupe de contact parce qu'il y a des PV et donc aujourd'hui... C'est quand même une donnée officielle d'une mission impartiale de l'État. Alors maintenant, il faut des perspectives, mais ça, les perspectives, c'est forcément aujourd'hui chez les indépendantistes qu'il faut le trouver, puisque la mission a dit que du côté non-indépendantiste, les efforts avaient été faits.
On rappelle que les 3 hauts fonctionnaires, Rémi Basti, Frédéric Potier et Éric Thiers, avaient été installés par le président de la République le 23 mai, 10 jours après le début des émeutes. Ils étaient restés plusieurs semaines sur le territoire pour essayer de retisser les fils du dialogue.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Notre question du jour, approuvez-vous la décision du nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, de porter plainte contre le député de la France insoumise, Raphaël Arnaud, qui a mis en cause l'action des forces de l'ordre en Nouvelle-Calédonie? Si vous l'approuvez, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Merci de votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à notre question du jour. Le long week-end du 24 septembre était une période à risque, mais il s'est déroulé sans incident majeur, a donc relevé le Haut Commissariat. Un certain nombre d'exactions ont tout de même été commises. Nous recevrons demain le directeur de cabinet du Haut Commissaire, Théophile Delassus, qui viendra faire le bilan des différentes opérations de ce week-end prolongé. Théophile Delassus qui sera notre invité du matin à 7h30. Un accident tragique à l'île des Pins ce matin, Léo Fichou, un homme est mort noyé sur le quai de la baie de Couteau.
On l'a appris en fin de matinée, la direction de la compagnie maritime des îles le confirme cet après-midi. Un employé de la société est décédé aux alentours de 8 heures lors d'une opération de déchargement de fret. Âgé d'une quarantaine d'années, l'homme a perdu la vie après être tombé à l'eau avec son chariot élévateur. La CMI explique que malgré l'intervention rapide de ses collègues, des services de secours mais aussi des autorités locales, le décès a été constaté sur place par la gendarmerie. La société spécialisée dans le transport maritime de marchandises, de carburant et de passagers a exprimé ses condoléances à la famille avant de rappeler que la sécurité des employés reste la priorité absolue. Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident.
La délégation interinstitutionnelle constituée pour défendre auprès des autorités nationales le plan quinquennal de reconstruction et d'accompagnement de la Nouvelle-Calédonie est à pied d'œuvre à Paris. Cette délégation a été reçue hier par Olivier Faure et plusieurs députés socialistes. Le premier secrétaire du Parti socialiste indique sur les réseaux que la situation sur place est en effet dramatique avec 24 000 personnes au chômage, soit 35% du secteur privé. Il estime qu'indépendamment d'un accord politique, il faudra à un moment trouver l'urgence sociale et économique doit être prise en compte par le gouvernement qui est en grande partie responsable de la situation. La délégation va poursuivre ses entretiens. Demain, elle doit notamment rencontrer le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale. Plus de 4 mois après le début des émeutes, les chantiers de démolition ont commencé pour plusieurs infrastructures ou entreprises détruites ou saccagées. Où en est le marché de la démolition ? Ce sera le thème demain midi des Jeudis de l'économie. Un magazine qui aura pour invité l'INSEE Richard du cluster Acotrade, Franck Olivier de la société Démolition Désamiantage NC et Hiro Mataliano de l'entreprise EMC Recyclage. Un Jeudi de l'économie consacré au marché de l'économie. C'est demain à partir de midi, juste après notre édition de la mi-journée. Les élections à la Chambre de métiers et de l'artisanat auront lieu le 5 novembre prochain. Il s'agira de procéder au renouvellement général des membres de l'Assemblée générale de la Chambre pour la mandature 2024-2029. Lors de sa séance hebdomadaire, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a convoqué les électeurs pour ces élections. Les bureaux de vote seront situés à Nouméa, Koné et Point-d'Imier. Les électeurs souhaitant voter de manière électronique pourront le faire entre le 1er octobre dès 7h30 et le 25 octobre jusqu'à 18h. Et puis dans un tout autre domaine, le gouvernement a approuvé le programme d'exploitation des services aériens réguliers internationaux de la société Aircal pour la période du 30 septembre 2024 au 31 mars 2025. Ceci permettra à Air Calédonie d'exploiter 2 vols par semaine les lundis et jeudis à destination du Vanuatu. Enfin, l'exécutif appelle à faire preuve de vigilance et à adopter un comportement responsable face aux incendies depuis plusieurs semaines sur le territoire et plus particulièrement en province nord. Le territoire est touché par une série d'incendies. La semaine dernière, ce sont près de 800 hectares qui ont été dévastés à Koumak et Kalagomen. Des feux pour certains d'origine criminelle qui causent d'importants dommages sur le plan écologique et menacent la biodiversité. Le coût humain, matériel et financier pour le pays sera élevé, explique le gouvernement. Dans ce contexte, l'exécutif tient à saluer l'engagement des pompiers et des équipes de la sécurité civile et appelle l'ensemble des Calédoniens à faire preuve de vigilance dans cette période particulièrement propice au feu de brousse.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Marais, c'est le 101.5.
Comme annoncé, le conseil Nat Nekanaki organisait un rendez-vous ce mardi 24 septembre dans le district de La Roche à Marais. Michael Juneski.
Oui, les chefferies présentes sous l'appellation Nat Nekanaki, conseil des grands chefs, ont procédé à la lecture d'une déclaration unilatérale de souveraineté des chefferies sur leur territoire. Pour Hippolyte Inewami, président d'Inat Nekanaki, grand chef de La Roche, c'est un texte qui vise à revendiquer une plus grande reconnaissance des chefferies sur terre coutumière et même une autonomie de gestion pour les populations concernées, ainsi qu'une place dans les discussions sur l'avenir institutionnel. On écoute Hippolyte Inewami.
La reconnaissance, en tout cas, de leur gestion sur leur territoire, tout ça, pour pallier, en tout cas, la gestion sur terre coutumière, mais en relation aussi avec les collectivités publiques et les forces de l'ordre, par rapport à leur apport aussi au niveau de leur autorité. Dans ce message aussi, c'est de dire aussi que c'est une déclaration coutumière, et que dans leur espace coutumier, on a aussi mis une dimension, en tout cas, d'ouverture par rapport aux victimes de l'histoire. Et la parole qui a été donnée par les anciens, on le respecte. La parole est sacrée. Le couloir coutumier que nos autorités coutumières aiguisent, il faut que ce couloir coutumier soit aussi mis en place pour les discussions.
Quelle est la position désormais vis-à-vis du Sénat coutumier qui vient de changer de présidence?
Le Sénat coutumier, comme les conseils coutumiers, ce sont des outils des grandes chefferies. Pour nous, ce n'est pas l'institution qui pose problème. Ce sont les hommes à l'intérieur. Et puis c'est surtout la position de parti politique, en tout cas, qui est venue contrôler, en quelque sorte, le Sénat coutumier. La jeunesse, elle est impactée de plein fouet aujourd'hui face à cette situation. Au niveau des chefferies aussi, c'est de régler aussi le problème du foncier. Et puis, la restructuration des chefferies, parce que ça viendrait ramener aussi la paix aussi, non seulement entre nos Kanaks, mais aussi avec les autres communautés, là où ils sont aussi installés.
La suite de cette déclaration en Dinatsné Kanaky, ce sera l'installation de groupes de travail, la demande de moyens pour mettre en place cette gouvernance interne aux terres coutumières. La déclaration sera transmise à l'État ainsi qu'aux instances de l'ONU. Une tournée des chefferies membres Dinatsné Kanaky sera également effectuée pour ceux qui n'ont pas pu être présents à Maré afin d'expliquer la démarche entamée hier.
18h01, on marque une première pause dans ce journal avant de développer la suite de l'actualité. On parlera d'abord de la fin de période de formation pour une centaine de volontaires du RSMA. C'était ce matin à Bourret. A tout de suite.
Du 4 au 6 octobre à la Moselle, c'est la 14e édition de la Foire du Pacifique. Une édition spéciale consacrée à la Nouvelle-Calédonie. 3 jours de fêtes et de spectacles, des promotions ont fait de 250 exposants, des cadeaux à gagner, un événement incontournable. Retrouvez le programme complet sur la page Facebook Pacifique Fair NC. Un événement en partenariat avec la Province Sud, Tourisme Province Nord, Île Loyauté Explorer, la BCI, Coca-Cola sans sucre, la CMA, Science et RRB. Info soir, Isabelle Pelletier.
À Bourail ce matin, une centaine de volontaires du RSMA a été présentée au drapeau Léo Fichou, une cérémonie qui marque la fin de la période de formation militaire initiale pour ces jeunes.
Et oui, ils sont âgés de 18 à 25 ans et avaient rejoint le régiment il y a à peu près un mois. Ces volontaires du RSMA, régiment du service militaire adapté, ont notamment appris à se vêtir et à travailler comme des militaires, mais aussi à accepter quelques règles de comportement de l'armée. Ce matin, c'était l'occasion pour ces jeunes de sortir des murs du régiment et d'aller à la rencontre de la population calédonienne. Le lieutenant-colonel Faldoni Révillon, directeur du RSMA, revient sur le déroulé de la cérémonie de ce matin.
On commence par une revue des troupes. On enchaîne ensuite avec la présentation au drapeau, voilà, qui est tout un symbole pour les militaires, et donc c'est leur montrer qu'ils font maintenant partie d'une famille régimentaire. Et puis derrière cette séquence de présentation au drapeau, les jeunes ont pu se faire remettre leur insigne régimentaire, donc un nouveau signe d'appartenance, avec un petit message qu'ils nous ont fait passer à tout le public qui assistait à la cérémonie. Je les cite, hein, ils ont voulu montrer que malgré leurs différences, ils marchaient tous désormais dans la même direction, tous ensemble.
Un message qui est bien passé ce matin auprès du public, venu nombreux pour assister à la cérémonie. Désormais, après un mois passé tous ensemble au sein du régiment de Bourail, place pour eux à la formation professionnelle.
Donc la centaine de jeunes qu'on a présentés au drapeau ce matin, en fait, va rejoindre nos différentes emprises, celle de Koumac, celle de Koné, celle de Bourail, pour désormais se former à un métier et une formation professionnelle. Le temps de formation professionnelle est variable en fonction de la filière qu'ils ont choisie. Ça peut durer 6 mois, comme ça peut durer jusqu'à 12 mois, en fonction de la technicité du métier qu'ils doivent apprendre.
À noter que les équipes du RSMA sont mobilisées depuis plusieurs semaines dans la lutte contre les feux de forêt qui sévissent dans le nord de la Grande Terre.
La cérémonie d'hommage aux harkis et autres membres des formations supplétives, une commémoration se déroulait ce matin sur la place Biraka, Michael Juneski.
Les autorités civiles et militaires étaient présentes pour se souvenir d'une histoire douloureuse. Le secrétaire général du Haut-Commissariat, Stanislas Alfonsi, a notamment lu, lors de cette commémoration, le message de Sébastien Lecornu, ministre des Armées et des Anciens Combattants. Je cite « Les harkis sont unis avec notre nation par une histoire, une mémoire et un destin. » Une histoire qui a commencé par un engagement et qui s'est poursuivie par un abandon. Et parce que les harkis ont partagé nos combats, ils partagent aussi le destin de la nation. Une nation qui n'oublie rien des drames du passé et qui a été capable de leur demander pardon. Fin de citation. On écoute Jean-Paul Lextret, directeur du service de proximité de l'Office national des combattants et victimes de guerre pour la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna.
Cette cérémonie a lieu tous les ans le 25 septembre. C'est pour que la France se rappelle du sacrifice de ses soldats, longtemps oubliés et souvent délaissés, en particulier à la fin de la guerre d'Algérie, lorsque les Français métropolitains sont rentrés et qui ont été pour la plupart laissés en Algérie, conformément aux accords du 19 mars. Nous avons en Nouvelle-Calédonie un harkis qui a vécu cette période et qui, à l'issue, s'est engagé dans l'armée française et a gravi tous les échelons pour finir au grade de colonel honoraire. Là, il commence à être à la fin de sa vie et donc il aurait dû être présent ce matin, mais donc un coup de faiblesse au réveil a fait qu'il n'était pas là.
Et pour rappel, les harkis étaient près de 200 000 Algériens qui, durant le processus d'autodétermination du pays et encore après l'indépendance de l'Algérie en 1962, ont été enlevés, torturés, massacrés, exécutés avec une extrême atrocité, tout comme leurs familles, victimes de violences, et ce malgré le cessez-le-feu et les accords signés à Évian avec le nouvel État algérien devant garantir leur sécurité. Près de 90 000 personnes ont été contraintes de fuir le pays. Une commission de reconnaissance et de réparation de la nation française en faveur des harkis a été créée en février 2022.
Une aventure de cohésion attend les 150 volontaires inscrits pour effectuer leur service national universel du 7 au 18 octobre, un séjour qui se divise en deux parties et débutera par des activités de cohésion, puis un temps d'engagement, Sarah Mégeret.
Pendant 12 jours, 75 filles et 75 garçons âgés de 15 à 17 ans vont s'intéresser à la culture et au patrimoine de Nouméa, ainsi qu'à l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Au programme, un ensemble d'énigmes à résoudre en équipe au sein de la maison Higginson, le musée de la ville et le musée de la Seconde Guerre mondiale. Jean-Luc Faure, le coordinateur du SNU en Nouvelle-Calédonie.
En tout, il y a 12 maisonnées, donc il y a 12 tuteurs, 12 personnes qui vont être des encadrants de premier niveau de ces jeunes volontaires. Les maisonnées sont intégrées dans des compagnies, et à la tête de chaque compagnie, vous avez un cadre, un homme, une femme. Les tuteurs hommes sont à la tête de maisonnées d'hommes, les tuteurs femmes sont à la tête de maisonnées de femmes. On est dans une logique de parité absolue. Et au-dessus des cadres de compagnie, vous avez l'équipe dirigeante, le chef de centre, deux adjoints, des cadres spécialisés, un qui va être le référent santé, qui est une infirmière scolaire, une autre qui est référente ASH, qui est référente handicap, et qui va pouvoir gérer dans une logique de proximité avec des auxiliaires de vie, des jeunes gens qui sont en situation de handicap.
Cet après-midi, les 12 tuteurs ont visité les 3 musées qui accueilleront les volontaires dès le 7 octobre. Anne-Laure sera capitaine pour les maisonnées des filles.
Cet après-midi là, de cohésion nous permet de nous mettre un petit peu dans la peau des volontaires parce qu'on rencontre aussi de nouvelles personnes. On retrouve des personnes qu'on connaissait mais dans d'autres contextes, qui sera certainement le cas de nos jeunes volontaires qui sont scolarisés pour certains dans les mêmes établissements ou qui se connaissent à travers des activités sportives. Et donc là, je pense que la difficulté, c'était peut-être simplement d'arriver à s'imprégner parce que comme eux, on va arriver sur un format qui va être rapide, intense, on va avoir beaucoup d'informations. Et quelque part, en fait, cet après-midi nous permettait de nous mettre à leur niveau très humblement et d'être préparés à aller bien les accueillir le 7 octobre.
Cette initiative est une aubaine pour la mairie qui souhaiterait continuer de proposer aux jeunes calédoniens ce type d'activité. Clémentine, médiatrice culturelle pour la ville de Nouméa.
On est content de recevoir le SNU parce que 150 jeunes vont venir traverser nos structures muséales, la maison Higginson, le musée de la ville et le musée de la Seconde Guerre mondiale. C'est sûr que c'est un gros format pour nous de médiation et de support. 150 jeunes sur 3 heures, sur 3 structures, en format jeu, c'est pas rien à concevoir. On est là pour ça et effectivement le travail qui est fourni en amont va probablement être réutilisé à d'autres ensembles de groupes et puis réadapté à chaque profil en fait.
On rappelle que les 150 volontaires effectueront leur service national universel du 7 au 18 octobre prochain.
La TIR se relève après plusieurs mois compliqués. Dès le début des émeutes, l'Association pour le traitement de l'insuffisance rénale a connu des difficultés et a même été contrainte de fermer certains de ses centres de traitement. Aujourd'hui, c'est un retour à l'activité presque normale, Mickaël.
Oui, dès le 13 mai, les 3 centres d'hémodialyse de la TIR du Grand Nouméa n'ont plus ouvert leurs portes en raison des nombreuses exactions. Résultat, des centaines de dialysés ont dû interrompre leur traitement malgré les risques encourus. Désormais, presque tous les centres ont pu rouvrir, explique Nicolas Darceau. Il est le président de l'Association pour le traitement de l'insuffisance rénale.
Elle fonctionne quasiment normalement depuis maintenant fin juin, après les derniers événements. On a retrouvé une activité sur le Grand Nouméa qui est quasiment normale. Alors il y a quelques patients qu'on a du mal à faire venir toujours, ceux qui habitent de Mont-d'Or Sud, sur la Brousse et sur les îles aussi. On est revenu à un fonctionnement normal de 3 dialyses par semaine sur les temps de dialyse normaux. L'écueil qu'on a aujourd'hui, c'est Thiot, avec la province sud, on s'est mis d'accord pour y retourner ensemble dès que c'était possible. Et les patients de Thiou ont été rapatriés sur d'autres structures existantes, sur la Foi ou sur le Grand Nouméa, pour ceux qui habitaient Grand Nouméa. Il doit y avoir deux ou trois patients de Thiou qui continuent de faire des allers-retours sur Nouméa pour se faire dialyser, par contre.
Et désormais, il faut penser au futur et à la continuité des soins pour les patients. Et en raison des difficultés toujours d'actualité, Nicolas Darceau s'inquiète d'un potentiel manque de personnel.
Au niveau des infirmiers, ça va, on est doté du nombre d'infirmiers dont on a besoin. Mais ça reste quand même une source d'inquiétude, de savoir est-ce que les infirmiers vont partir, est-ce qu'on va avoir du mal à recruter. Ce qui me semble être une évidence, mais pour l'instant, ça tient. Au niveau des médecins, par contre, on a perdu un peu d'effectifs. On avait 6 médecins, on en a plus de 3. Donc là, on est en train de rechercher activement, mais c'est compliqué de faire venir des médecins. Surtout des médecins néphrologues. Hein. En métropole, les néphrologues sont tous en déficit de néphrologues. Hein. Donc faire venir dans le contexte actuel des spécialistes, c'est assez compliqué. Donc c'est notre challenge pour les prochains mois, je vous avouerai.
On compte de 600 à 650 patients atteints d'insuffisance rénale en Calédonie. Et l'association qui existe depuis plus de 30 ans prend en charge un peu plus de 400 Calédoniens.
Avec l'arrêt des liaisons Air Calin vers Tokyo et les restrictions de fret pour les colis postaux, la Poste et l'OPT rencontrent quelques difficultés pour l'import de colis de la métropole vers le territoire. Les paquets peuvent parfois cumuler quelques semaines de retard. Les deux instances ont trouvé des solutions, toujours par voie aérienne, pour fluidifier le trafic. Les précisions de Caroline Chalier, chef du centre de traitement postal à l'OPT.
La Poste française rencontre des difficultés d'acheminement vers la Nouvelle-Calédonie de par cette restriction du nombre de vols, mais aussi des capacités en soute, ce qui fait qu'on a à peu près la moitié de notre flux habituel ces dernières semaines. Mais la métropole va tester de nouvelles solutions, mais toujours en aérien, parce qu'on a connu aussi à l'époque du Covid la solution maritime, mais là c'est beaucoup plus long et je pense que ça fait beaucoup de mécontentement aussi derrière. Donc on a priori trouvé une solution alternative qu'ils vont faire en test dans les prochains jours. Autant on reçoit des choses dans les 3 jours qui suivent, autant il peut y avoir 1, 2, 3 semaines de retard. Une fois que ça arrive en Calédonie, c'est traité sans difficulté. On achemine et on distribue sur tout le territoire.
Des solutions qui devraient être mises en place dès les prochains jours, selon l'OPT.
RRB 18h12.
L'Agence néo-calédonienne de la biodiversité appelle les résidents de la Foi à signaler toute observation de bulbules à ventre rouge, cette espèce envahissante qui n'est normalement pas présente au-delà du nord de Bouloupari et en effet été observée à Watom le 13 septembre dernier, Léo Fichou.
Les populations les plus abondantes de bulbules se trouvent dans la zone de Yaté, Mondor, jusqu'à la commune de Bouloupari, où des actions de régulation sont régulièrement menées. Cette espèce très envahissante ne devrait donc pas être vue au nord de Bouloupari. Cela a pourtant été le cas, comme l'explique Patrick Barrière, le directeur de l'Agence néo-calédonienne de la biodiversité, l'ANCB.
Au nord de Bouloupari, le bulbule, des populations résidentes de bulbules n'existent pas. Or, on trouve régulièrement des spécimens isolés. C'est le cas, par exemple, le 13 septembre dernier à Watom, à La Foi. Mais ça a été le cas également à plusieurs reprises à Bouraille et jusqu'à Vaud. Et on suspecte que ces spécimens ne viennent pas d'eux-mêmes depuis le front nord, depuis Bouloupari, parce que les distances sont beaucoup trop importantes, mais que ce soit certainement des spécimens échappés de volières, même si cette espèce envahissante est interdite à la détention.
Car si le bulbule peut représenter un oiseau exotif attractif avec sa huppe et ses couleurs rouges, il est avant tout une espèce envahissante majeure, nuisible également tant pour la biodiversité que pour l'agriculture, comme le rappelle Patrick Barrière.
Avant d'être possiblement joli, il est assurément envahissant et constitue un risque majeur à la fois pour l'environnement, parce qu'il il rentre en conflit avec les oiseaux du pays de petite taille, qu'il exclut là où il est présent. Il dissémine des espèces végétales envahissantes comme le faux poivrier, par exemple, et puis un impact économique majeur sur l'agriculture, puisqu'il est attiré par les fruits et les légumes, et en particulier toutes les productions fruitières et les tomates. Il est particulièrement attiré par le rouge, et donc dans le Grand Nouméa, il occasionne des dégâts tous les ans qui sont importants et qui se comptent en millions.
Un prototype de piège à bulbules est en cours de réalisation. L'ANCB rappelle que le bulbule ne doit donc pas être présent au-delà de Bouloupari. Dans le cas contraire, il pourrait être à l'origine d'une population importante source de nuisances. Pour protéger la biodiversité et garder le nord de la province sud et la province nord exempte de cette espèce envahissante, l'ANCB appelle donc tout résident qui apercevrait un bulbule à contacter son pôle menace au 75 30 69 75 30 69 ou via sa page Facebook.
18h15, nous marquons une seconde pause dans ce journal avant d'aborder le sport. On parlera notamment force athlétique et cyclisme. On se retrouve après une page de pub.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal, et c'est du sport, Isabelle Pelletier.
Oui, l'actualité sportive et on parle force athlétique avec un Calédonien qui disputera les championnats du monde Masters, Mickaël Juneski.
Axel Raymond sera avec l'équipe de France en Afrique du Sud. Malgré les émeutes qui ont largement contraint sa préparation puisqu'il n'a pas pu prendre part au dernier championnat de France et qu'il a pris sa sélection il y a quelques semaines seulement, il partira donc dans la catégorie Master 1 chez les moins de 93 kilos. Axel Raymond, 40 ans, multiple champion d'abord de taekwondo avant de se reconvertir à la force athlétique, nous a fait part de sa réaction à l'approche du grand départ.
Ça a été une belle surprise parce que normalement j'aurais dû faire les qualifications au championnat de France en juin et malheureusement avec les émeutes, j'ai pas pu partir. J'étais prétendant au titre et puis voilà, on a dû abandonner l'affaire. Hein. Entre temps, on a réussi à avoir un repêchage par rapport à mes résultats. Ma première réaction, elle a été de reprendre du poids parce que avec tout ce qui s'est passé, les événements, ça avait tout chamboulé. Et donc, à l'origine, je suis en compétition en moins de 93 kilos. J'étais descendu à 85 kilos. La chance que j'ai eue, c'est juste avant les émeutes, j'ai eu le temps de récupérer mon matériel d'entraînement et j'ai dû commencer ma préparation tout seul à la maison. Mon coach Kenny Wendt, il a vraiment géré ça différemment. Donc, il m'a fait une préparation un peu plus rapide parce que c'est une préparation en 8 semaines. Il a réussi justement à me faire travailler, à remonter sur mes charges et même à dépasser les charges que mes records que j'avais. Tout ça en peu de temps et surtout en évitant la blessure, en montant trop vite, quoi. Je rejoins l'équipe de France, mais sans coach. Donc là, je vais partir m'entraîner dans une salle en Australie tout seul pour pouvoir justement commencer à me mettre dans ma bulle et commencer à travailler, à me mettre en situation sans avoir de coach pour me conseiller. C'est-à-dire qu'il va falloir que je me débrouille tout seul.
Vu les conditions, rien que cette participation, elle relève déjà de l'exploit, on pourrait dire.
Surtout quand on regarde la fiche de compétition, on se dit on est vraiment pas mal, on est déjà bien placé. Maintenant, ce sera à nous d'aller nous battre pour monter sur la boîte et pourquoi pas ramener le titre en Nouvelle-Calédonie. Certes, c'est partir avec l'équipe de France, représenter l'équipe de France, mais on a toujours en tête de faire briller la Nouvelle-Calédonie au plus haut mondial.
Axel Raymond qui sera donc au Mondiaux Masters de Force Athlétique, une compétition qui se déroulera du 5 au 13 octobre prochain. Ça se passera à Sun City en Afrique du Sud.
Un mot de basket 3 contre 3 avec le déplacement en Australie des sélections U23 de Nouvelle-Calédonie, Léo Fichou.
Un déplacement pour grandir, explique la Ligue calédonienne de basketball. Les sélections des moins de 23 ans, féminines et masculines, sont sur la Gold Coast afin de participer à un tournoi océanien. Une compétition de 3 contre 3 avec notamment ce soir deux rencontres pour les filles face aux îles Cook et aux Vanuatu. Un seul match pour les garçons, ce sera contre les îles Cook. Au programme également, jusqu'à la fin de la semaine, des séances de développement destinées aux joueurs mais aussi aux entraîneurs et aux arbitres. D'ailleurs, deux arbitres calédoniens ont fait le déplacement, Naomi Wema et Evan Bonas.
En cyclisme, on vous l'annonçait lundi, le Calédonien Ryan Lachny a remporté à nouveau le Tour de Tahiti, Mickaël.
Il a terminé avec le maillot jaune en tête du classement général du Tour du Fénois 2024. C'est sa deuxième victoire consécutive sur cette épreuve. Le champion de France des Outre-mer 2023 l'emporte après 8 journées de course sous les couleurs de l'Aespirae. C'était une grande fierté pour l'ancien licencié du VCC Mandor.
C'est une course qui s'est plutôt bien passée personnellement pour moi avec la victoire au bout. Encore une fois, ça a été un tour qui a été très mouvementé avec un bon niveau. On a réussi à prendre le maillot jaune assez tôt et le conserver sur l'intégralité de ce tour et du coup c'est une belle réussite pour nous. Le Tour Tahiti, c'est une course que j'affectionne. C'est une course sur laquelle j'ai commencé le vélo. Je l'ai déjà gagné l'an dernier. Faire le doublé, c'est quelque chose de bien. Ça fait 2 ans que je viens pour le club de Pirae. C'est un club qui est très familial. On a une très bonne entente. Et franchement, c'est un très beau tour. Et les principales difficultés de ce Tour Tahiti, elles ont été du fait du niveau. Avec une équipe des États-Unis et quelques Français de National 1 qui ont couru sur ce Tour de Tahiti. Mes plus beaux souvenirs, ils sont sur Moorea, parce que c'est une étape sur laquelle on a montré qu'on avait une force collective et on a fait un beau tour et je pense que la gagne a été assurée à Moorea. Et voilà, elle est là, le plus beau souvenir de ce tour pour moi.
Voilà pour cette réaction de Ryan Lachny depuis la Polynésie française. Le coureur calédonien qui était ces dernières années en métropole, il envisage désormais un retour sur le territoire avec donc un titre de plus à son palmarès grâce à ce nouveau sacre sur le Tour de Tahiti Nui 2024.
Et puis sur le territoire du football avec la reprise ce soir du trophée du Grand Nouméa Léo.
Après une pause de 4 jours liée au couvre-feu pendant ce long week-end du 24 septembre, le TGN reprend ses quartiers au Parc des Sports de Cuccio. Deux belles affiches de la 7e journée sont au programme ce soir. Le premier match a démarré à 18h entre Gaïcha et Lossi. À 19h45, seconde rencontre entre l'AS Wetch et le Dumbe AFC. Demain soir, 2 autres rencontres seront au programme.
Merci Mickaël et Léo, 18h21. On va passer maintenant à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
La météo avec vous Nicolas.
Alors cette nuit, le ciel sera nuageux sur l'est où des averses circuleront en cours de nuit. Ailleurs, le temps restera sec et le ciel passagèrement nuageux. Sur l'ouest, le vent de secteur est faiblira localement entre 5 et 10 nœuds en seconde partie de nuit. Ailleurs, il se maintiendra entre 15 et 20 nœuds. Les températures minimales seront en dessus des normales, notamment sur le nord et Ouvéa, où elles seront comprises entre 21 et 22 degrés. Ailleurs, elles évolueront entre 17 et 20 degrés. Demain matin, les nuages persisteront sur l'est en donnant quelques averses. Ailleurs, le soleil l'emportera largement. Le vent de secteur est s'établira autour de 15 nœuds, localement proche de 20 nœuds sur les points nord et sud. Il s'établira ensuite de secteur sud-est entre 10 et 15 nœuds, Isabelle.